Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bonjour Jean Mauduit. Vous êtes venu nous parler aujourd'hui d'œuvres plutôt ou totalement méconnues de Paul Valéry.
Oui, il s'agit d'un livre insolite en effet, et merveilleux d'ailleurs. Il porte le titre sibyllin de Corona et Coronilla. Il est édité par Bernard de Fallois aux éditions qui portent son nom. Et c'est l'édition posthume, je dis bien posthume, des vers que Valéry a écrit de 1939 à 1945 pour Jean Voilier. Jean Voilier est le nom de plume d'une certaine Jeanne Loviton, qui était une dame d'origine belge, fort jolie, professeure de lettres, critique littéraire, qui a été le grand amour tardif de Valéry. Le dernier, parce qu'il était notablement plus âgé qu'elle. Il avait 67 ans, elle en avait 35. Mais ce n'est pas la mort qui les a séparés, c'est la vie. Le jour de Pâques 1945, Jeanne est venue annoncer à Paul qu'elle le quittait pour épouser l'éditeur Robert de Noël. Et Valéry n'a survécu que quelques semaines à cette séparation.
Donc c'est une histoire totalement romanesque qui a inspiré Paul Valéry?
Ben c'est son histoire.
Oui.
C'est une histoire d'amour. Et triste, comme toutes les histoires d'amour.
Ah
bon? Je vous vois perplexe.
Non, je suis encore jeune, Jean, il faut me laisser avec mes illusions.
Les histoires d'amour se terminent toujours mal en littérature, c'est un point, et même dans le monde réel. Et ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est la plus grande du prix qui soit, parce que la mort finit toujours par avoir le dernier mot. Si on croit, si on est croyant, c'est une parousie, la mort. De toute façon, c'est quand même une séparation.
C'est un peu regardé quand même, Valéry, par le trou de la serrure.
Ben, c'est-à-dire que effectivement, ces deux recueils n'auraient jamais paru si Bernard de Fallois n'en avait retrouvé la trace.
C'est-à-dire que Paul Valéry n'avait pas l'intention de
pas
faire
du
publier
tout.
Ces recueils.
Pas du tout. Il avait fait imprimer, composé et illustré lui-même les deux recueils en, je crois, 6 exemplaires chacun. Et ces deux recueils avaient disparu. En fait, il les avait donnés à Jeanne. Mais Jeanne, portons pas de jugement, a cru pouvoir vendre à l'hôtel Drouot en 79, faire vendre Corona. Quant à Coronilla, 3 ans plus tard, en 82, à Monte-Carlo, a subi le même sort. Non, Valéry n'aurait jamais autorisé la parution, pour la bonne raison que cette œuvre était destinée à personne d'autre qu'à Jeanne.
Mmh.
Et comme vous dites, on a... Comme on vous dit tout à l'heure, on a fracturé le tiroir secret. Il y a de ça.
Oui,
il y a de ça, oui. Mmh. Non, enfin, bon.
Parce que Paul Valéry n'avait peut-être pas cette distance vis-à-vis de son écriture qu'il a habituellement.
Ah ben c'est ça, c'est peut-être le côté le plus intéressant, précisément. Mmh. Parce que pour tout de même pardonner, s'il y a lieu, l'apparition de cet ouvrage, disons que du point de vue histoire littéraire, c'est une fantastique acquisition.
Mmh.
Parce que précisément, nous sommes là, dans ces deux ouvrages, sous le signe de la dérogation et de l'antithèse. Valéry y apparaît comme le contraire de ce qu'on pensait qu'il fût, et peut-être le contraire de ce qu'il voulait être. Il faut savoir qu'en 1892, il avait 21 ans, après un désastre sentimental, il s'était promis de ne plus jamais écrire de poèmes et de ne plus jamais tomber amoureux. Alors il a mis 20 ans à transgresser le premier des deux serments, jusqu'à l'apparition de la Jeune Parc, qui, vous savez, a été un coup de tonnerre dans le monde littéraire, qu'il a propulsé d'un coup au rang de célébrité mondiale. Quant à la deuxième promesse qu'il s'était faite, ne plus jamais tomber amoureux, il a réussi à la tenir, malgré un mariage paisible, quelques liaisons tout à fait fugitives. Il a réussi à tenir le coup, si je puis dire, pour parler vulgairement, jusqu'à la rencontre de Jeanne en 1937. Et alors là, brusquement, C'est le coup de tonnerre, c'est l'amour, prenant tous les stéréotypes qu'on voudra. C'est la passion, l'amour furieux, l'amour qui vous arrache du sol, l'amour qui vous rend capable de toutes les folies, l'amour qui grandit en vous comme un enfant, pardon, ou comme un arbre.
Mais un amour destructeur, si je suis bien compris.
Un amour destructeur, je ne dirais pas ça, parce que Valérie va le porter en lui, effectivement, tout en continuant sa vie officielle. Ce grand poète mondialement connu, membre de l'Académie française, professeur au Collège de France, qu'on invite dans toutes les grandes cérémonies pour prononcer de beaux discours, celui qui crée les deux phrases qui figurent au fronton du Palais de Chaillot, je n'ai pas en tête, mais qui sont de très belles phrases. Bref, ce poète officiel, sans rien changer à son existence, vit en cachette une passion absolue. En moins de 7 ans, il va écrire quelque chose comme 150 poèmes réunis en 2 recueils, donc Corona et Coronilla, qui resteront 25 ans après sa mort, comme je le disais, en possession de la seule Jeanne.
Oui. 150 poèmes, oui, c'est un gros volume.
Ah, c'est beaucoup.
Est-ce qu'il y a une différence alors entre Corona et Coronilla?
Alors, disons que Corona est une symphonie dédiée à l'amour absolu, une symphonie au sens c'est un recueil de poèmes, donc qu'on peut considérer comme une symphonie dédiée à l'amour absolu. Et Coronilla, c'est une suite de poèmes légers et parfois doucement érotiques.
Ah oui.
Mais oui, le grand Valéry. Enfin, c'est de l'érotisme discret, par allusion. Ce n'est pas de l'érotisme qu'on voit quelquefois s'épancher, même si ça n'est pas toujours porno, qu'on voit s'épancher avec trop de liberté. Non, c'est discret. Mais, par exemple, je prends un poème qui s'appelle « Autre chanson », on se croirait chez Verlaine, « Entre quatre yeux, entre quatre membres, si beau que tu cambres jusqu'à tous les cieux. » Voilà l'érotisme, bon, c'est encore de bonne compagnie. « Entre quatre lèvres, entre vous et moi, être les orfèvres d'un joyau d'émoi fait de quatre lèvres, entre vous et moi, ô douce corolle, entre quatre doigts, frémis, si je bois sans une parole, entre quatre doigts. » Hein, c'est coquin tout de même, mais pas trop.
Oui, pas trop. Comment est-ce que vous jugez, vous, ces poèmes par rapport au reste de son œuvre, justement c'est...
Bah, évidemment, moi je suis un grand admirateur d'une Pierre Marin. Je connais moins bien la Jeanne d'Arc, mais j'aime beaucoup aussi certaines œuvres de Valéry, dont une qui m'est particulièrement chère, « Tes pas, enfant de mon silence, lentement, saintement placé, vers le lit de ma vigilance, procède, muets et glacés. » Ça aussi c'est érotique, mais c'est superbe. « Personne pure, ombre divine, qu'ils sont doux, t'es pas retenu. Dieu, tous les dons que je devine viennent à moi. » Sur ses pieds nus. Si de tes lèvres avancées tu prépares pour l'apaiser à l'habitant de mes pensées la nourriture d'un baiser, ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas. Je n'ai vécu que de l'attendre et mon cœur n'était que vos pas. Ça, c'est du très grand Valéry. Là aussi, c'est érotique, mais ce n'est pas le même genre d'érotisme. C'est beaucoup plus secret, beaucoup plus insistant en même temps. Comment je perçois ça? Eh bien, c'est un artisan rigoureux qui sculptait lentement, très lentement, dans le marbre, les visions de son intelligence. Car il n'était qu'intelligent, il ne voulait être qu'intelligent. Brusquement, il devient ce poète qui cède aux sentiments, ce poète exquis, spontané, qui ne refuse plus l'irrationnel.
Ni le charnel.
Ni le charnel, ni même la magie. Il y a 2 ou 3 poèmes, je serais bien incapable de les retrouver, où il évoque un autre monde. Il est même gai, lui qu'on a connu, si grave, comme en témoigne le poète que je viens de vous réciter. Il est rieur, sauf à la fin, quand elle l'aura quitté, il aura 2 ou 3 poèmes douloureux. Bon, c'est évidemment un peu touchant, en même temps un peu dérisoire, ce vieux monsieur, qui offre ses bouquets de verre à une personne notablement plus jeune et qui le paiera de son ingratitude, comme il était inévitable. On ne tombe pas amoureux à 67 ans d'une personne de 35 ans sans courir quelques risques. Alors, vous me posez la question de savoir si c'était la même qualité. Non, on ne peut pas comparer, ça n'a rien à voir. C'est 2 poètes différents. C'est plus le même homme qui écrit. Naturellement, on ne s'en fait pas. Dans les vers de Corona, surtout, on retrouve des accents parnassiens, comme ceux du cimetière marin. Mais dans ces deux recueils, Valéry, bien davantage, ronsardise, poétise, pétrarchise, on peut dire, comme si l'amour avait un art poétique qu'il respecte. Et il faut reconnaître que la plupart des poètes amoureux se réfèrent toujours à Pétrarque et à Ronsard, même s'ils ne le font pas explicitement. Mais personnellement, j'ai trouvé là quand même, malgré le fait qu'en effet, ça ne soit pas du pur Valéry ciselé dans le bronze et dans le métal précieux, j'ai trouvé là de très très beaux cris de passion, parmi les plus beaux qu'une œuvre poétique m'ait donné à entendre.
Oui, je vous sens ému.
Je suis ému, je suis enchanté. Et en même temps, ça ne retire rien à l'œuvre. Au contraire, il y a cette conclusion que j'évoquais, qui est commune à beaucoup d'histoires d'amour. La tendresse de Paul Valéry est devenue étouffante pour Jeanne. Elle suit vers d'autres lieux, elle va chercher ailleurs, comme disent les braves gens. Et le vieux monsieur, d'un coup, sont tombées sur lui toutes les années qu'il avait jusqu'à présent, avec lesquelles il avait rusé, parce que tout le monde s'accordait à dire que Valéry avait une activité débordante, qu'il était à 65 ans aussi fringant qu'un homme de 40 ou de 50. D'un coup, paf, il s'écroule. Et il va consacrer ses derniers jours, ses dernières forces à pleurer dans ses vers l'absence de Jeanne et sa propre absence annoncée. Il meurt d'amour. Alors, je tiens à dire que le livre est enrichi d'une postface de Bernard de Fallois, qui est une petite merveille. Bernard de Fallois, vous le savez sans doute, est un de nos plus grands éditeurs. Et la postface en question, dont je suis d'ailleurs largement inspiré pour l'analyse de ce livre, est un véritable chef-d'œuvre d'intelligence et de sensibilité. Si bien que le bonheur est complet quand on lit ce livre.
Est-ce que vous voudriez bien nous en lire au moins un poème tout de même?
Un poème. Alors, un poème triste ou un poème gai?
Un triste et un gai.
Un triste et un gai. Alors on va commencer par le gai.
Ah non, par le triste.
Par le triste. Alors, le triste, c'est la fin, oui. Le triste, c'est la fin. Ce qui sera bientôt ne sera plus. Demain se meurt au cœur de ce jour même. Derrière moi, qui perdrait ce que j'aime, du temps futur fuit vainement le flux. Jour qui viendrait, vous êtes révolus. Gens qui naîtraient, enfants que l'amour sème dans l'avenir aux couleurs de poèmes, vous êtes morts, qui vivraient superflus. La vie est riche en fausses pierreries. S'il t'arrivait que l'heure te sourit, tiens l'espérance une vieille catin. Vois sous son phare l'éternelle grimace, garde ta bouche, ou crains demain matin qu'elle ait baisé quelque immonde limace. Pas très gai, ça. C'est le désespoir, c'est la jalousie, c'est la malédiction. Alors voilà qui est plus gai, il est au cœur de son bonheur, là, de son amour. Elle était belle, avec un cœur plein de contrastes. Elle aimait les canards, l'amour, les pédérastes qui portent le courrier sur un plateau d'argent. Elle suivait les cours des maîtres, mais songeant à toute autre leçon, aux clartés moins austères, à tels enseignements d'autres complémentaires, à tel savoir suivi dans l'ombre d'un soupir. Elle était tendre, il était doux de se tapir voluptueusement comme une chatte en elle, de regarder le jour mourant sur sa prunelle, toute proche, et d'attendre en silence l'amour. Chouette quand même.
Je suis contente de vous avoir fait lire ces poèmes à l'envers.
Ouais. Et je suis contente d'avoir récité sans me tromper.
Je vous en félicite d'ailleurs. C'était donc une chronique sur un recueil de poèmes de Paul Valéry, Coronia, paru aux éditions de Fallois.
Au prix de 22 euros.
Au prix de 22 euros en novembre 2008. Merci Jean Mauduit.
C'est moi.